Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, l'émission Un jour dans l'histoire ne va pas tourner autour d'une date précise, puisque nous allons aborder aujourd'hui le récit d'une relation qui, par définition, s'allonge dans le temps. Il s'agit de la relation qu'entretint le général de Gaulle avec l'URSS. Au mois de décembre 2004, la Fondation Charles de Gaulle, avec le concours de la Fondation Nationale des Sciences Politiques et de l'Association Diplomatie et Stratégie, a organisé un colloque sur ce thème. Plus d'une vingtaine d'historiens ont souhaité démêler la relation complexe entre le chef d'État français et la Russie soviétique. Une étude en quatre temps sur les conceptions du général de Gaulle et réciproquement la vision stalinienne de la France libre, mais aussi une approche de la relation entre les deux pays au cours des différentes crises des années 60, une période marquée, certes, et également par une coopération des deux pays dans les domaines économiques, techniques et scientifiques. Quelles furent donc les relations entre la Russie et la France libre? Que disent les archives soviétiques à propos du général de Gaulle? Que recouvre l'expression du général, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural? Bref, quelle place la Russie avait-elle dans la géopolitique gaullienne? Autant de questions auxquelles Maurice Weiss va nous répondre aujourd'hui. Maurice Weiss, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités, vous enseignez l'histoire des relations internationales à Sciences Po. Vous êtes un des plus grands spécialistes des questions de politique étrangère et de défense, auteur de nombreux ouvrages. Je renvoie nos auditeurs aux émissions réalisées avec Georges-Henri Soutou sur le dictionnaire des ministres des Affaires étrangères auquel vous avez collaboré, ainsi que l'histoire de la diplomatie française, histoire de la diplomatie parue en 2005 chez Perrin et pour laquelle vous avez rédigé la partie allant de 1958 à 2004. Et vous venez de publier donc les actes du colloque « De Gaulle et la Russie » paru chez CNRS Édition. Maurice Weiss, quel était le défi de ce colloque?
Le défi, il est double. Il est d'abord un défi de nature professionnelle. C'était d'avoir un certain nombre de vues convergentes ou divergentes, mais en tout cas qui permettraient de connaître mieux l'attitude du général de Gaulle à l'égard de la Russie et éventuellement l'attitude des Russes à l'égard du général de Gaulle. Donc, au fond, essayer de canaliser les énergies universitaires, scientifiques, de trouver les gens compétents pour parler de différents sujets. Et puis, le deuxième défi, c'était précisément le défi du titre, le défi de ce qu'était cette relation, parce que un collègue, ou plus exactement une connaissance d'origine russe, m'a fait remarquer que le titre n'était pas celui qu'il aurait souhaité, parce que de Gaulle a eu une relation avec l'Union soviétique, avec la République des Soviets, mais pas avec la Russie, puisque la Russie n'existait pratiquement pas du temps où il avait une charge de responsabilité. Et par conséquent, il y a cette espèce de dualité Russie-Union soviétique et qui fait problème et qui faisait problème. Alors, si pour ma part j'ai choisi le titre « De Gaulle et la Russie », c'est tout simplement parce que dans l'optique du général de Gaulle, ça n'était pas l'Union soviétique, c'était la Russie, parce que pour lui, les nations sont éternelles, tandis que les régimes sont des régimes qui passent. Et par conséquent, pour lui, le régime soviétique devait passer. Il est mort, comme nous le savons, en 1970. Et par conséquent, il n'a pas vu la chute de l'Union soviétique. Il n'empêche que pour lui, l'Union soviétique était quelque chose d'éphémère, tandis que la Russie, c'était la Russie éternelle.
Alors nous allons revenir bien évidemment sur cette continuité russe. En 2004, quel était l'état des recherches sur cette question?
Du côté français, les archives sont ouvertes. que ce soit les archives du ministère des Affaires étrangères, les archives diplomatiques ou les archives militaires, éventuellement même les archives de l'économie et des finances. Mais du côté de la Russie, puisque c'est maintenant la Russie, les choses sont plus compliquées. Vous savez qu'à un certain moment, correspondant au début des années 1990, il y a eu une ouverture des archives et qui ont permis à un certain nombre de collègues russes, mais aussi américains et aussi français, d'entrer dans ces archives et pouvoir travailler. Et puis, il y a eu une fermeture et puis une réouverture. Bref, on peut dire que pour la période essentielle qui nous concerne, c'est-à-dire les années qui vont de 1920 à 1958-60, les archives sont largement ouvertes du côté soviétique. Pour le reste, on est peut-être encore en demande de nouvelles archives ou d'ouverture d'archives. En tout cas, le colloque a pu bénéficier de beaucoup de fonds nouveaux, et en particulier sur la Seconde Guerre mondiale.
Alors, il s'agissait d'un colloque international, vraiment franco-russe. Le résultat de ce travail universitaire est vraiment important. On est surpris par la variété des interventions. Rien ne semble avoir été négligé. Et vous avez souhaité compléter ces interventions par la reproduction de 3 documents importants. Quels sont ces documents importants?
Quand un historien est confronté à un vrai problème historiographique et même politique, il doit avoir, je crois, l'honnêteté de ne pas imposer son choix au lecteur. Et s'il le fait, il doit le signaler. Et s'il peut le faire, et c'est ce que les éditions du CNRS nous ont autorisé à faire, ce dont je suis fort reconnaissant, c'est qu'il met les pièces à conviction, si je peux dire, à disposition des lecteurs. Alors, de quoi s'agissait-il ? Il s'agissait en réalité d'une question qui est toujours débattue, qui fait toujours l'objet d'une opposition non seulement entre les témoins et les acteurs qui vivent encore, il y en a, qui faisaient partie de ce fameux voyage en Russie de décembre 1944, mais discussion également entre les historiens. Et par conséquent, c'est la question de savoir si, lors de la rencontre entre De Gaulle et Staline en décembre 1944, lors du voyage de De Gaulle en Russie, pour contrebalancer le poids trop important qu'avaient les Anglo-Américains dans la reconquête de la forteresse Europe. Si, à ce moment-là, le général de Gaulle n'a pas été trop loin dans les concessions qu'il pouvait être amené à faire du côté de la Pologne. Alors, je résume en quelques termes, parce que c'est peut-être un peu technique, mais je pense que ça vaut la peine pour répondre à votre question de dire en 3 mots de quoi il s'agit. La question était de savoir si les Français allaient reconnaître ce qu'on appelait le comité de Lublin, c'est-à-dire le groupe des Polonais qui étaient au fond pro-soviétiques et communistes, et s'ils allaient laisser tomber le comité des Polonais de Londres. Puisque, au fond, dans la résistance polonaise, dans l'opposition polonaise à l'Allemagne nazie, à l'occupant nazi, il y avait 2 types. Il y avait ceux qui étaient plutôt pro-anglo-américains, pro-occidentaux, dirait-on, quelques mois ou quelques années plus tard, et puis les autres pro-soviétiques. Alors, la question était de savoir si la France, qui avait les meilleurs termes, qui avait les meilleures relations avec le comité de Londres, puisque, comme le gouvernement provisoire de la République française avait lui-même ses antennes à Londres, eh bien, il était en bon terme avec les Polonais de Londres. Mais les Soviétiques insistaient beaucoup pour qu'il y ait aussi une relation, éventuellement une reconnaissance du comité de Lublin. Et il y a eu... au cours de ces journées et nuits, en particulier très agitées de décembre 1944, des discussions entre la délégation française et la délégation soviétique. Et de là est sortie une espèce de résultat ambigu. Résultat ambigu d'où viennent d'une part la relation de Jean Laloy, qui était l'interprète du général de Gaulle à Moscou et qu'on
que
voit d'ailleurs sur la photo de couverture, et qui a évidemment laissé des passages extraordinaires sur tout cela. Je me rappelle qu'un colloque que j'avais organisé moi-même à Reims, il nous avait fait un portrait de Staline qui avait littéralement glacé tout l'amphithéâtre devant lequel il se trouvait. Et puis, de notre côté, le témoignage du diplomate Étienne Burin-Desrosiers, jeune officier à ce moment-là, rattaché au général de Gaulle, dont le témoignage va tout à fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'un dit « Oui, au fond, il y a eu une concession de Gaulle et de Bidault aux Soviétiques. » Et puis de l'autre, « Il n'en est pas question, ce n'est pas du tout cela, il n'y a pas eu de concession, la France s'est tenue droite du côté du... » Alors, si vous voulez, face à ces désaccords très nets, et qui évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, concernent la période, mais concernent aussi évidemment encore davantage la période des années 50 et 60, la période où le général de Gaulle était chef de l'État. Alors là, oui, il y a une espèce d'enflure polémique autour de cette affaire-là. Et c'est pourquoi, souhaitant faire un ouvrage totalement déconnecté de toute option politique, polémique, etc., bien que ce soit la Fondation Charles de Gaulle qui soit un des sponsors de l'opération, eh bien... j'ai pensé que le mieux était de présenter les pièces.
Je reçois Maurice Weiss et nous évoquons les rapports du général de Gaulle et de la Russie. Maurice Weiss, vous venez de publier, vous venez de diriger les actes du colloque publié donc chez CNRS Éditions dans la collection Histoire. Nous nous retrouvons dans un instant.
Chaque lundi, les académiciens de l'Académie des sciences morales et politiques se réunissent dans la salle des séances de l'Institut de France. Ils écoutent une communication sur un thème choisi.
Pour les séances de l'année 2006, le président de l'Académie, M. André Damien, a choisi le thème de la justice.
Sur Canal Académie en séance, vous permettra d'entendre, entre autres intervenants, Henri Amouroux sur la justice du peuple en 1944.
Maître Jacques Vergès, la passion de défendre.
La justice, thème de réflexion de l'Académie des sciences morales et politiques pour l'année 2006.
C'est chaque semaine dans En séance sur Canal Académie.
Nous reprenons notre émission consacrée au rapport entre le général de Gaulle et la Russie. Maurice Weiss, vous venez de publier chez CNRS Éditions un livre consacré à ce sujet, un livre qui n'est autre qu'une reprise des actes du colloque que vous avez organisé en 2004. Nous venons d'évoquer justement les défis de ce colloque. Venons-en au sujet lui-même. Le général de Gaulle, des années 40, est souvent considéré comme bainvillien. Pourtant, en ce qui concerne la Russie, il n'en est absolument rien. À la différence de Jacques Bainville, de Gaulle était, lui, pour l'alliance franco-russe.
Le général de Gaulle est clairement, en effet, pro-russe. Et s'il est pro-russe, c'est que, pour lui, la Russie est l'allié naturel de la France par rapport à l'Allemagne. Et il est clair que le général de Gaulle a une vision géopolitique des choses et que, comme vous le savez, dès l'âge de 15 ans, en 1905, il avait écrit une dissertation expliquant qu'il allait se trouver à la tête des armées françaises et même européennes devant l'invasion des armées allemandes. Et là, on faisait appel aux armées russes parce que dans la vision géopolitique du général de Gaulle, il y avait en effet cette idée que c'était l'allié de revers.
Qu'est-ce que recherche le général de Gaulle dans cette alliance russe pendant la Deuxième Guerre mondiale ?
Ah, sans aucun doute, le général de Gaulle qui est parti de rien, qui était un homme seul, et quand je dis un homme seul, ça veut dire qu'autour de lui, il y avait d'autres hommes seuls, très peu de gens, avait besoin d'appui, et il est clair qu'à partir de l'opération Barbarossa, les gaullistes ont vu la possibilité d'une alliance objective entre les gaullistes, la France libre, et la Russie soviétique. En outre, cela coïncidait avec le fait que la résistance communiste allait naître et se développer, et par conséquent, les objectifs de politique intérieure s'ajoutaient aux objectifs de politique extérieure, et très clairement, il s'agissait pour le général de Gaulle de trouver dans la Russie soviétique un allié de poids face à l'Allemagne nazie, mais aussi, comme je l'ai dit il y a un instant, un contrepoids face à ce qu'était de trop envahissant la présence des Anglo-Américains et le fait que le général de Gaulle était un peu prisonnier de Londres. À un moment, il a même été question, de façon d'ailleurs hypothétique, mais c'est significatif, qu'il s'installe à Moscou.
Oui.
Et par conséquent, ça signifie tout simplement...
Nous aurions pu entendre, ici Moscou, les Français partent aux Français.
À la limite, pourquoi pas. Mais il s'agissait, comme toujours chez les généraux de Gaulle, d'une option parmi d'autres qui, à la limite, n'était pas très sérieuse, mais qui permettait de suspendre l'épée de Damoclès au-dessus de la tête des Anglo-Américains pour bien leur signifier qu'ils n'étaient pas l'alpha et l'oméga.
Alors, l'accueil de Staline est favorable. Que recherche Staline, lui, dans cette reconnaissance ferme de la France libre ? Parce que c'est une reconnaissance ferme. Est-ce que la Russie va privilégier ses rapports avec la France libre au détriment de ses rapports avec la Grande-Bretagne ou avec les États-Unis ?
Aucunement. Staline est un réel politicien qui sait bien qu'il a beaucoup plus à gagner au concours des Anglo-Américains, et il a tout à gagner, puisque, on le sait, des milliers de matériels, armes, chars, camions, des millions de tonnes de nourriture sont allés nourrir les Soviétiques pendant la guerre grâce aux Américains. Ils ne pouvaient rien obtenir de semblable du côté du général de Gaulle. Et la seule chose que le général de Gaulle ait pu faire pour les Russes, c'est symbolique, mais c'est très important, c'est d'envoyer des pilotes français pour constituer cette fameuse escadrille Normandie-Niemen qui a été en quelque sorte le symbole de l'aide de la France libre à l'Union soviétique et le lien entre les deux. Lien qu'on célèbre toujours. Chaque année, depuis les années de la Seconde Guerre mondiale, on célèbre la fameuse escadrille Normandie-Niemen.
Alors que recherche donc Staline dans cette alliance, puisqu'il y aura alliance en 1944 ?
Oui, d'abord, l'alliance intervient en décembre 1944, mais il faut bien savoir que l'Union soviétique n'a pas reconnu le gouvernement provisoire de la République française avant les autres États, je veux dire avant les États-Unis et l'Union soviétique. Les trois États, États-Unis, Royaume-Uni et Union soviétique, ont reconnu le GPRF en octobre 1944. Auparavant, certes, il y avait eu une attitude un peu plus souple des soviétiques à l'égard du CFLN et des instances de la France libre. Mais les soviétiques se sont tenus tout de même très parallèle à l'action des Anglo-Américains. Alors, qu'est-ce qu'ils recherchaient ? Oh ben, c'est tout à fait simple. La France, tout de même, était un pays avec lequel, à la veille de la guerre, il y aurait pu avoir, en effet, un traité d'alliance anglo-franco-soviétique. La France représentait quelque chose pour l'Union soviétique. Il y avait en outre l'aspect de politique intérieure dont j'ai parlé il y a un instant avec la résistance du Parti communiste français. Et en bon partisan de la Realpolitik, Staline se disait probablement que avoir en Europe occidentale une personnalité comme De Gaulle qui réussissait à tenir tête à Churchill et à Roosevelt, eh bien, ça n'était pas mauvais dans la perspective de l'après-guerre.
Alors, venons-en donc à ce fameux accord. Il y a un contexte bien, bien particulier qui est la question allemande. Elle domine bien évidemment l'Europe. De Gaulle, lui, cherche une division de l'Allemagne ou tout au moins la recherche de la constitution d'États tampons, notamment au niveau de la Rhénanie, alors que la Russie, elle, son avis est tout autre. Est-ce qu'il n'y a pas une pomme de discorde entre les deux pays et est-ce que cet accord, finalement, n'est pas biaisé en décembre 1944 à cause de cette pomme de discorde ?
L'accord ne se fait pas sur l'Allemagne. C'est un accord, pourrait-on dire, caractère général. Il est clair pour les Français et les Soviétiques qu'il faut... on est en décembre 44 et on vend d'une certaine façon la peau de l'ours avant de l'avoir tué, puisque à la fin de décembre 44 il y aura la contre-offensive des Ardennes, etc. Il n'empêche, on s'accorde sur le fait qu'il faut diminuer la puissance allemande une bonne fois pour toutes. Mais, et de ce point de vue-là, il y a en effet des accords. De Gaulle voudrait détacher la Rhénanie, voudrait détacher la Sarre, voudrait obtenir un certain nombre de concessions de la part de l'Union soviétique. Et les soviétiques, eux, font la sourde oreille. Eux, ce qui les intéresse, c'est quelque chose d'autre. C'est l'internationalisation de la Ruhr. C'est-à-dire le fait que cet extraordinaire bloc de charbon, de fer, de sidérurgie pourrait devenir, au fond, un bien commun des puissances victorieuses. Par conséquent, encore une fois, Staline recherche son intérêt, l'intérêt de l'Union de la Russie soviétique, et il n'est pas prêt pour cela à accepter les demandes faites par De Gaulle, qui concernent évidemment l'intérêt de la France, c'est-à-dire le détachement de la Rhénanie, une vieille affaire depuis les années de l'immédiate après la Première Guerre mondiale, etc. etc. Donc, en fait, les deux nouveaux alliés sont d'accord avant tout sur des formules très, très larges, très vagues, anéantir la puissance allemande, mais quand on en vient à des aspects plus précis, eh bien, on ne réussit pas à trouver un accord.
Oui, c'est ce que dit, entre autres, François Lévesque ou bien Olivier Wieworka, qui interviennent tous les deux à l'occasion du colloque. Je cite François Lévesque, « Ces relations pour De Gaulle sont importantes, mais pas primordiales. En fait, on a l'impression d'une politique faute de mieux. Moscou dépendant des Américains et la France payant toujours encore le prix de la débâcle de 40. » C'est bien cela ?
Oui, bien sûr. Les Soviétiques voient à la fois la France comme la puissance avec laquelle ils auraient pu avoir un bon traité en 1939, mais une puissance qui a tout de même été vaincue en mai-juin 40 et par conséquent qui ne représente plus grand-chose. Donc il n'est pas question pour les Soviétiques de faire les concessions que demande la France.
Alors, Jean Laloi que vous citiez précédemment, l'interprète donc du général de Gaulle, inscrit ce traité dans la tradition de celui qui a été signé en 1892. Et cette référence aux années 92-93 du siècle précédent existe dans les deux camps. Elle est aussi soulignée par Robert Belot qui intervient au cours du colloque. N'est-ce pas davantage une illusion ou la recherche d'un symbole, disons que cela fait partie du décor, plutôt qu'une réalité politique dans la mesure où non seulement de Gaulle, encore une fois, n'obtiendra pas ce qu'il souhaite, mais par ailleurs, ce traité de 1944 sera remis en cause 10 ans plus tard.
Je crois au contraire que même les mythes ont la vie dure, même les symboles jouent un rôle en politique internationale, et que l'idée que la Russie soit l'allié de revers, dans le cas de 1892, dans celui de l'entre-deux-guerres, dans celui de 1944 et la suite, je crois que tout ça, d'abord, c'est un jeu de reflets, et ensuite, ça correspond à une réalité géopolitique. Et c'est ça qui compte.
Dans sa conclusion, Hélène Carrère-Dancos retient 3 constantes chez De Gaulle, un sentiment national profond, la certitude de l'intérêt d'un accord franco-russe et le scepticisme à l'égard des idéologies. Est-ce que ces 3 aspects que l'on trouve donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous les retrouvons après, sur la question russe, lors de sa présidence ?
Ah, tout à fait, tout à fait. C'est exactement cela. Il y a une continuité évidente dans les idées du général de Gaulle, en particulier concernant le scepticisme à l'égard des idéologies. C'est ce qui lui fait considérer que la Russie, seule la Russie compte, parce qu'elle est éternelle, et que l'Union soviétique, elle, est éphémère. Alors, bien entendu, à certains moments, le général de Gaulle ne peut pas ne pas condamner l'Union soviétique pour la part idéologique ou le combat qu'elle mène ou la façon dont elle traite ses populations. Il y a des mots extrêmement durs dans un certain nombre de déclarations du général de Gaulle. Il n'empêche qu'au-delà de cela, dès le retour au pouvoir en 1958, il a l'idée qu'il faut faire un effort pour renouer avec les soviétiques.
Je reçois Maurice Weiss, auteur du livre « De Gaulle et la Russie » paru chez CNRS Éditions. Nous nous retrouvons dans un instant pour la troisième partie de notre émission. À tout de suite.
Un événement.
Une association.
Une œuvre.
Une fondation.
Tout ce qui mérite votre attention est dans Point de Mire.
En direct ou en médiathèque.
Sur Canal Académie.
Un jour dans l'histoire reçoit Maurice Weiss, auteur du livre De Gaulle et la Russie, paru chez CNRS Éditions. Nous avons, Maurice Weiss, évoqué donc le sentiment du général de Gaulle pendant la Deuxième Guerre mondiale à l'égard de la Russie. Allons au-delà de la Deuxième Guerre mondiale. La politique française à l'égard de l'Allemagne va changer. Elle va changer aux alentours de 1947-1948. C'est la date que donne Vyacheslav Chilov, qui est un des intervenants du colloque. Quelle est la nature de ce changement politique de la France à l'égard de l'Allemagne et quelles conséquences sur les rapports franco-russes? Est-ce qu'ils ne vont pas théoriquement s'améliorer dans la mesure où la France abandonne sa conception bainvillienne de la division allemande?
Le véritable facteur de changement, c'est le fait que le monde, et en particulier l'Europe, plonge dans la guerre froide et que alors qu'on avait vécu dans l'illusion que les alliances de la Grande Guerre se perpétueraient après, les alliances de la guerre se perpétueraient à la suite de la Seconde Guerre mondiale, ça n'est pas du tout le cas. Les années 46-47 voient, au contraire, les alliés de la guerre s'opposer de plus en plus systématiquement, un peu partout, d'abord en Europe, puis un peu partout dans le monde, et par conséquent, pour la France, la relation qu'elle a à l'égard de la Russie soviétique d'un côté, de l'Allemagne de l'autre, va nécessairement changer. D'abord parce que l'Allemagne est occupée, l'Allemagne est démembrée, que la France occupe une partie de l'Allemagne, que l'Allemagne n'existe pas. Politiquement, elle n'existe qu'à partir de 1949, où vont naître successivement les deux États allemands, celui de l'Ouest et celui de l'Est. Et par conséquent, il y a basculement de la France et de la zone occidentale de l'Allemagne dans ce qu'on a appelé le bloc occidental. Et puis de l'autre côté, le basculement de la zone, ce qu'on appelait la zone d'occupation soviétique, dans le bloc oriental et opposition farouche, déterminée, complète entre les deux blocs.
Est-ce pour cette raison que la dénonciation du pacte franco-soviétique et la rupture du pacte franco-soviétique est un non-événement, comme le qualifie Chantal Morel dans au cours du colloque ? Parce que finalement, ce n'est plus un pacte qui correspond à une réalité politique.
Au fond, on peut dire que l'alliance qui avait été nouée en décembre 1944 n'avait jamais joué un véritable rôle. Je veux dire un véritable rôle politique. Le facteur de la guerre froide sur lequel je viens d'insister suffisait à lui tout seul pour montrer qu'au fond, on ne voyait plus très bien à quoi correspondait ce pacte franco-soviétique de décembre 1944. Par conséquent, la dénonciation qui a lieu en 1954, c'est-à-dire exactement 10 ans plus tard, est en effet un non-événement parce que il correspond à une officialisation de quelque chose que tout le monde avait présent à l'esprit, avait devant les yeux. C'est-à-dire le fait qu'entre Paris et Moscou, ça n'allait vraiment plus du tout. Et par conséquent, on ne le dénonçait pas parce qu'il est toujours plus facile de garder quelque chose que de le noyer. La dénonciation est un non-événement parce que tout le monde s'était rendu compte que ça ne servait à rien.
Alors le général de Gaulle arrive au pouvoir et vous, Maurice Weiss, à l'occasion du colloque, vous êtes intervenu sur la crise de Cuba et celle du Proche-Orient. Donc de Gaulle est au pouvoir. Que reflètent ces deux crises dans les rapports franco-soviétiques ?
Oui, il se trouve que d'abord, je mène un programme de recherche sur plusieurs années sur les crises dans les relations franco-soviétiques depuis les années 40 jusqu'aux années 80. Ces thèmes correspondaient aux années 60. Il y a quelques mois, nous avons tenu une nouvelle session sur les années 70 et qui fera l'objet d'une publication dans la Revue d'Histoire Diplomatique. Mais alors, en ce qui concerne les crises des années 60, moi j'ai voulu insister sur deux crises tout à fait différentes, celle de Cuba et celle du Proche-Orient. Pourquoi ? Parce que dans celle de Cuba, la France et l'Union soviétique sont clairement dans deux camps opposés. Clairement, d'un côté, la Russie soviétique est en quelque sorte, entre guillemets, l'agresseur. C'est elle qui prend une initiative internationale grave. La France n'est pas directement agressée, mais elle fait savoir, je n'insiste pas, tout le monde connaît, elle fait savoir aux États-Unis, qui sont directement concernés, qu'elle serait à leur côté si jamais il y avait guerre. Donc c'est un cas tout à fait extraordinaire où il y a assurance de solidarité de la France avec son allié principal, les États-Unis. La crise du Proche-Orient est tout à fait différente. Et on voit là, d'abord, l'évolution des événements et des relations internationales entre 1962 et 1967. Et puis aussi, il faut bien le dire, l'évolution du général de Gaulle. Dans la mesure où je mesure mes mots, tout de même, ça me paraît tout à fait significatif. Dans cette crise, le général de Gaulle prend clairement position aux côtés de l'Union soviétique, non pas en calquant la position de la France ou la politique de la France sur celle de l'Union soviétique, mais en apportant son concours à l'Union soviétique, bien plus qu'elle ne le fait à l'égard des États-Unis d'Amérique. Et par conséquent, pour caricaturer les choses, pour dire les choses un peu de façon lapidaire, aux côtés de l'Union soviétique, elle appuie les États arabes, tandis qu'on voit les États-Unis appuyer Israël. Et là, on voit combien ces deux crises sont parfaitement antithétiques et qu'elles montrent à la fois l'évolution des relations internationales et l'évolution de la politique étrangère du général de Gaulle.
Alors, cette démarche est-elle profitable pour la France, dans le cas évidemment de la crise du Proche-Orient ? Quel bilan, finalement, peut-on faire ? C'est une question que vous vous posez à la fin de votre propos.
Oui. Vous savez, on peut toujours se poser des questions, en effet, évidemment. Mais le problème, pour un historien, est qu'il est situé à un point P de l'histoire et qu'il ne peut parler que pour la période qu'il a... à considérer. Il n'est pas évident que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on ne constate que la position prise en 1967 ait été meilleure ou pire. Bien. Mais il est clair que si la France a pris position de cette façon-là, c'est parce qu'elle était hostile à l'intervention israélienne et que on voit à cette époque-là la France passer d'une politique qui était grosso modo encore une fois pro-israélienne à une politique pro-arabe. Or, comme l'Union soviétique était systématiquement proche des pays arabes, la France, en effet, se rapproche de l'Union soviétique aussi. Et c'est en cela que cette étude est intéressante et passionnante, parce qu'elle fait apparaître qu'à la fin des années 60, interviennent des facteurs nouveaux, des acteurs nouveaux des relations internationales, et que les grandes puissances ne sont plus seules à jouer dans la cour. Il y a, dans la cour des grands, des petits qui jouent et qui peuvent influencer les grands.
Donc c'est effectivement un moyen de sortir du monde bipolaire pour un monde multilatéral.
Dans un monde multipolaire, sans aucun doute. Et il est tout à fait vrai que le général de Gaulle n'a pas cessé de jouer la fin des blocs, la crise des blocs, y compris en cassant ou en menaçant de casser le bloc occidental avec la sortie de l'organisation militaire intégrée de l'OTAN.
À ce propos, comment réagit Moscou juste face à cette décision française de sortir de l'OTAN ?
Et il va de soi que Moscou s'en réjouit. Moscou ne peut qu'applaudir dans la mesure où l'OTAN était l'organisation qui lui faisait peur, qui s'opposait de façon systématique à toutes ses visées, et par conséquent, constater qu'il y avait un ver dans le fruit ne pouvait que réjouir les dirigeants soviétiques.
Alors, une intervention très intéressante de Mikhaïl Narinsky insiste sur le fait que la division bipolaire empêche malgré tout Moscou de mesurer pleinement les intentions du général de Gaulle, car de Gaulle voit au-delà du monde bipolaire, il pense à l'Europe de l'Atlantique et à l'Oural. Que signifie cette expression d'une Europe de l'Atlantique à l'Oural ? Est-ce simplement une expression géographique ou cette expression va-t-elle bien au-delà ?
D'abord, pour le général de Gaulle, qui est un historien et un géographe, comme tout militaire qui se respecte, il voit d'abord les choses sur le plan des cartes, sur le plan cartographique. Et pour lui, l'Europe s'arrête à l'Oural. et qu'au-delà de l'Oural, c'est l'Asie. Alors, il ne veut probablement pas couper la partie asiatique de l'Union soviétique et la détacher du reste de la Russie. Non, certainement pas. Mais au-delà de cette vision, je dirais, d'un géographe qu'il est, il y a une vision géopolitique qui consiste à penser que les Européens doivent avoir leur propre conception et leur propre vision des choses et qu'ils ne doivent pas être systématiquement asservis aux ordres, aux règles, aux commandements venus d'outre-Atlantique. Et de ce point de vue-là, encore une fois, De Gaulle a tendance à rechercher le contrepoids à la trop grande puissance américaine dans la puissance russe.
Maurice Weiss, nous nous retrouvons dans un instant, à tout de suite.
Qui porte l'habit vert ?
Les académiciens des 5 académies.
Qui est invité en habit vert ?
Les académiciens des 5 académies.
Qui s'exprime en habit vert ?
Les académiciens des 5 académies.
En habit vert ?
Le portrait.
Le parcours.
La rencontre.
Des académiciens des 5 académies.
En direct ou en médiathèque.
Sur Canal Academy.
Nous entamons la dernière partie de notre émission consacrée à De Gaulle et la Russie, une question qui fait l'objet d'une publication que vous avez dirigée, vous, Maurice Weiss, De Gaulle et la Russie, parue chez CNRS Éditions. Je profite du micro pour vous annoncer aussi la sortie de Diplomatie, le magazine des affaires stratégiques et des relations internationales, où vous avez écrit un article consacré donc aux relations franco-russes. Alors, nous évoquions cette Europe de l'Atlantique à l'Oural. C'est une Europe des nations, finalement. C'était absolument pas dans la vision gaullienne une Europe supranationale.
D'abord, ce serait totalement impossible. Et puis, il ne faut pas imaginer que c'est quelque chose qui est une réalité très concrète. Il y a, chez le général de Gaulle, l'idée qu'il faut laisser du temps au temps, comme dirait un de ses successeurs. C'est-à-dire que c'est une vue à très longue échéance et il n'est évidemment pas question de supranationalité dans tout ça.
Il y a un mot très fort d'Alain Larcan, donc, qui est l'auteur de l'intervention sur l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. C'est le mot christianita, c'est-à-dire qu'on conçoit la chrétienté dans l'Europe de l'Atlantique à l'Oural chez le général de Gaulle.
Si on avait demandé au général de Gaulle s'il était d'accord pour que dans le traité constitutionnel, il y ait une référence aux origines chrétiennes de l'Europe, il n'aurait pas été contre. Il aurait peut-être été contre le projet de traité constitutionnel, mais certainement pas contre la référence. Ça, chez lui, ça allait de soi.
Et on en revient à la question allemande. Naturellement, dans cette conception européenne, l'unification allemande a droit de cité, elle est même visiblement impérative. Et là, on sent une évolution de la part du général de Gaulle par rapport aux années 44-45.
Contrairement à ce qu'on peut penser, le général de Gaulle évolue. Il a évolué sur beaucoup de questions, et en particulier sur la question allemande, c'est extrêmement clair et net. Ce n'est pas du tout qu'il minore ce que la puissance allemande, et il la craint de façon permanente, peut-être moins lorsque le chancelier Adenauer est au pouvoir, mais de nouveau, à la fin de la période, il a des mots très durs contre l'Allemagne fédérale. Et par conséquent, il y a du côté du général de Gaulle la volonté, sans aucun doute, de raccrocher l'Allemagne de l'Ouest à l'Europe et en particulier à la France pour que plus jamais il n'y ait de guerre franco-allemande.
Est-ce que sa vision européenne est aussi un moyen de s'opposer à l'idéologie communiste ?
Je ne présenterai pas les choses comme cela. Je crois que chez De Gaulle, l'idée que la conception européenne, la conception de l'Atlantique à l'Oural, n'a rien à faire avec l'idéologie propre du communisme et que, encore une fois, il pense que le communisme est appelé à disparaître.
Donc la Russie, depuis la crise du Proche-Orient, en tous les cas la France, pardon, depuis la crise du Proche-Orient, va se tourner à nouveau vers la Russie. Comment concrètement va se développer cette politique de coopération ?
De toutes sortes de façons, en particulier par la création de commissions entre la France et la Russie et d'une coopération, comme on dirait à ce moment-là, tous azimuts, c'est-à-dire une coopération économique, multiplication des échanges commerciaux, coopération technologique, en particulier dans le domaine spatial et nucléaire. Il y a des savants français qui se rendent en Russie, qui coopèrent avec les Russes sur le plan spatial et nucléaire. Il y a aussi cette fameuse coopération qui se fait sur le domaine de la télévision en couleur, et où l'on voit de nouveau la France et la Russie soviétique alliées d'une certaine façon contre l'Allemagne fédérale, ce qui est même très intéressant. C'est quand même un aspect important, c'est un aspect de la coopération technologique, mais c'est un aspect qui est évidemment symbolique de cette période où la télévision en couleur, c'est quelque chose de très neuf pour les populations.
On a l'impression que le général de Gaulle est visionnaire sur une Europe des nations, mais il est également visionnaire, en tous les cas précurseur d'une politique de détente à l'égard de la Russie, puisque après le général de Gaulle, dans les années 80, dans les années 70 et 80, eh bien, les États-Unis tenteront cette politique de détente, tout comme la Russie.
Oui, la différence au fond entre la France d'un côté et les États-Unis de l'autre était que la France voulait une détente qui soit une détente de caractère bilatéral, c'est-à-dire que ce soit une détente d'État à État. Les États-Unis considéraient que l'Alliance Atlantique était un tout et que par conséquent, la détente, c'était une détente de l'Alliance Atlantique avec l'Union soviétique, ce que ne voulait absolument pas le général de Gaulle. Par conséquent, la détente était souhaitée de toutes parts, mais c'était la conception précise de la détente qui ne l'était pas.
Eh bien, Maurice Weiss, c'est sur ce mot de détente que nous allons nous quitter. Je vous remercie vivement d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Je rappelle à nos auditeurs que vous venez de publier « De Gaulle et la Russie » paru chez CNRS Éditions. Je renvoie également nos auditeurs à la revue Diplomatie Magazine à laquelle vous avez participé. Le dernier numéro est consacré au rapport franco-russe, le numéro donc du mois de mai 2006. Permettez-moi de citer également l'histoire de la diplomatie française, édité chez Perrin. Vous y avez participé auprès de Georges-Henri Soutou ou bien encore de Jean-Claude Alain. Enfin, la rédaction de Canal Académie a reçu le rapport du CEDES, le Centre d'études diplomatiques et stratégiques, un ouvrage dirigé par Pascal Chéniaud, paru aux éditions Economica. Le titre « Enjeux diplomatiques et stratégiques 2006 ». Merci beaucoup, Maurice Weiss, et à très bientôt.